Il y a 10 ans. Non, c'est pas vrai. Il y a...
Plus.
Oui. Parce que mon petit-fils qui porte son nom, il a... C'est il y a 15 ans. À 15 ans.
Ça
veut
dire ça. Oui. C'est lui qui a écrit l'homme de la Lapa.
C'est celui-là qui a écrit l'homme de la Lapa. C'est le portrait de son grand-père.
Un coucher de soleil, un lever de soleil est beau parce qu'il donne l'heure de la fila.
Non, parce que. Parce que si c'était Kippour, c'est un portrait à la Kapara. C'est l'entrée de Kippour. Le Rambam, il écrit dans Ilkhot Megillah v'Chanukah, il écrit V'yamim elu, ces jours-là, hen anikraim Chanukah, v'hen asurin be'espet ta'anit, ki yimei apurim. Ces jours-là, c'est, s'appelle, parce que c'est en même temps Chanukah et Purim dans le Rambam, dans la Chot. Alors, quand il parle des jours de Hanouka, il dit ils sont interdits, il est interdit d'y faire pendant les jours de Hanouka un esped. C'est-à-dire que si on doit enterrer quelqu'un, on ne fait pas de discours, pas d'esped. Et on n'a pas le droit de jeûner non plus, exactement comme à Pourri. Donc, alors, qu'est-ce qu'on apprend de Pourri? À Pourim, on apprend qu'il y a deux sortes de simcha. Il y a une simcha qui est active, si on veut, kumase, c'est-à-dire mets-toi en joie, en quelque sorte. Et ça, ça s'exprime par la souda, par le repas de Pourim, par mishloach manot, par le fait d'envoyer des plats qui servent à la souda des autres. Ce qu'on envoie, les manot, c'est pour que l'autre il ait à manger. C'est pour ça qu'on doit envoyer des choses qui sont immédiatement consommables.
Mais c'est jamais le cas aujourd'hui. Si on voit des corbeilles, des
petits bonnes rides. Oui, voilà. Mais ça doit être. Pour que ça compte comme Mishloach Manot, il faut que ce soit consommable.
On ne veut pas un morceau congelé de.
On n'est pas obligé de les consommer.
Non, mais il faut que ça soit consommable. Non, si on vous envoyait un livre comme Mishloach Manot, c'est gentil, mais ce n'est pas une Mishloach Manot. Si vous envoyez quelque chose qui n'est pas consommable, un poulet cru. Il faut envoyer un poulet cuit. Bon, il faut que ce soit consommable.
On peut envoyer du plat cuisiné.
Pardon ?
On peut envoyer du plat cuisiné.
Un plat cuisiné, tu peux envoyer, oui. En Adar, a priori, Yeshrak Yom Echad Amechayev Simcha Kazot. Au mois de Adar, il n'y a qu'un seul jour qui nécessite une simcha de ce genre-là. C'est le 14 ou le 15, selon qu'on est à Paris ou à Yerushalayim. Mais en plus de cette simcha-là, il y a une deuxième simcha. Une simcha qui est, ça s'appelle Shev Valta, c'est une simcha qui est plus passive. Et la simcha passive, elle s'exprime en termes de on ne jeûne pas, interdit de jeûner, et interdit de faire des espédimes, c'est-à-dire de s'attrister par trop. Et ça, c'est commun aux deux jours du 14 et du 15, Adar. C'est-à-dire, même pour nous le Pourim, c'est le 14, le 15 aussi, c'est interdit de Tanit, ce qu'on appelle Shushan Pourim. On ne peut pas non plus jeûner ni de dire un espède. Donc, la simcha active, elle n'a lieu que, disons pour nous, que le 14. La simcha passive, elle a lieu 14 et le 15. Et alors, en plus de ça, Vada Rishon, donc, Yeshne Yamim Yeme Purim, également dans le Adar Rishon, donc, She'omnam En Baem Simcha Peila, dans lesquels il n'y a pas de Simcha active, Aval Yesh Baem Simcha She'val Ta'ase, comme le dit le Rambam. C'est-à-dire que même quand il y a deux Adar, deux mois de Adar, Purim c'est sur le deuxième Adar. Mais le premier Adar, la Simcha passive, elle existe aussi. C'est-à-dire le 14 et le 15 du premier Adar, où on ne fait pas Purim, néanmoins, il y a un interdit de Ta'anit et de Esped, qui est la Simcha passive, en fait. Et c'est ce que Rambam dit dans Hilchot Megillah et Chanukah, il dit, « Shnei yamim ha'elu, shem arba asar v'chamisha asar » ces deux jours-là, qui sont 14 et 15, « Asurim be'esped v'ta'anit l'chol adam b'chol makom » pour tout le monde, en tout lieu. C'est-à-dire que tu sois un juif du 14 ou un juif du 15, c'est-à-dire que la simcha active dans Adar Sheni, tu la fasses le 14, comme nous à Paris, ou le 15, comme à Yerushalayim. Ben livne krachim shen o simcha misha asar bilvad, que ce soit les gens qui font le 15 seulement. Ben livne ayarot, les gens des villes ouvertes, chez nos Marba Asar Bilvad, qui font que le 14, comme nous. Ou je n'ai yamim asurim be'espet vetanit be'adar harishon ou be'adar hacheni. Donc, le premier dans le Adar Rishon et dans Adar Sheni aussi. Alors, les Anshek Farim, les gens des villages, chez Igdimu vekaru be'sheni ou be'chamishi asamuch le Purim. Alors, vous savez probablement que la lecture de la Megillah, on l'a fait le 14 ou le 15, mais les villages alentours, eux, ils pouvaient lire le lundi ou le jeudi, qui étaient les jours de marché, où donc les gens étaient rassemblés. Alors eux, ils lisaient la Megillah hein, le lundi ou le jeudi proche de Purim. Parce que c'est trop difficile de rassembler tout le monde un autre jour pour avoir un vrai minyan et beaucoup de monde. Donc on leur a permis de lire la Megillah le lundi ou le jeudi d'avant. Selon que c'est le lundi ou un jeudi qui est le plus proche de Purim. Donc ces gens-là qui lisent donc le lundi ou le jeudi, Mutarim be'esped v'tanit be'yom kriyatan v'asurin be'esped v'tanit. Donc eux, les jours où ils lisent, ils peuvent néanmoins faire espèce et tanit. Il n'y a pas la simcha passive. Par contre, ils ont l'obligation de la simcha passive les vrais jours. Et donc le Rambam dit que afyemei Chanukah. Rambam dit les jours de Chanukah, en baim mitzvot simchat peila. Le jour de Chanukah, il n'y a pas de mitzvah de simcha, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de simcha. Il y a seulement la simcha passive, ce qu'il dit ici. Comme les jours de Purim. Les jours de Purim sont un modèle, puisqu'ils sont premiers au sens où Purim ça a eu lieu avant Chanukah, parce que Purim c'est entre les deux temples, et Chanukah c'est au milieu du deuxième. Dans la Megillah d'Esther, c'est aussi écrit comme ça. C'est marqué dans le pasouk, Alken, Ayudim aprazim, Ayoshvim beore aprazot, Osim metyom arba asar le chodesh adar, Simcha ou mishte viyom tov, ou mishloach manot ish lereu. Pour cette raison, les juifs qui habitent dans les villes ouvertes, les villes qui n'ont pas de murailles, depuis Yoshua, c'est ça le critère, eux ils font le Purim le 14 du mois d'Adar, ils font là-bas Simcha, Mishte, donc réjouissance, joie donc, Mishte, le festin, Yom Tov, et Yom Tov, ou Mishloach Manot Ishlereu, et on envoie des plats les uns aux autres. Vaïchtov, le passage suivant dit, Vaïchtov Mordechai et Advarim Haele, Mordechai a écrit ça dans une lettre, Vaïchlach Sfarim, il a envoyé des livres, il a envoyé des rouleaux donc, El Kol HaYehudim Asher Bechol Medinot HaMelech Achashverosh, il a envoyé ça à tous les juifs de tout le royaume du roi Achashverosh, Akrovim Vaachokim, qui étaient où les gens proches de la capitale, et même ceux qui étaient très loin. Nouveau pasouk, Lekayem Alehem Liyot Osim et Yom Arba Asar le Chodesh Adar, pour qu'ils accomplissent et qu'ils pratiquent le 14 et le 15 chaque année. Kayamim Asher Nachou Baem Ayehudim, Meriveem, comme les jours où les juifs ont vaincu, ils ont été libérés de leurs ennemis, Vachodesh Asher Nepach Laem, et le mois qui a été changé pour eux, Miyagon, de la tristesse à la Simcha, Me'evel, du deuil au Yom Tov, Lasot Otam Yeme Mishte Vesimcha ou Mishloach Manot Ish Lereu ou Matanot Laevionim. Et ici, ils disent qu'il faut faire Yeme Mishte, Simcha, Mishloach Manot, Matanot Laevionim. C'est pas marqué Yom Tov. Akrovim Varachokim, ça c'est les gens des villes. Quand on dit proche et lointain, ça veut dire à la fois les gens qui sont des villes entourées de murailles et les gens qui sont des villes ouvertes. Liot osim, ça veut dire lishmor, ça veut dire il faut garder ça à ben, c'est ben arim aprazot, ben barim ukafot roma, les villes ouvertes et les villes fermées. C'est-à-dire, ils doivent se garder de quoi, mitanit ou mespet. Eux, ils doivent faire attention de ne faire ni tanit ni espet, c'est-à-dire la simcha passive. Et dans le pasouk kavbet, le dernier pasouk, kayami machar nachubahem, lasot otam yeme mishte ve simcha, c'est-à-dire lasot mishte simcha, c'est kumase, ça veut dire positif, il faut faire quelque chose, c'est la simcha active. Tout ça, c'est yom echad bashana bilvad. Kol makom beyomo, ça c'est pour un seul jour dans l'année, les uns le 14, les autres le 15. Et le chidouche du Rambam, qui a cette idée d'une simcha passive, c'est comme ça que le Soloveitchik a lu dans le Rambam, il dit que la source, où est-ce qu'on voit que ça existe, cette notion d'une simcha passive, il dit que c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, il y a une différence entre ce qui se passe au Mikdash, au Bet HaMikdash, et ce qui se passe en dehors du Bet HaMikdash. C'est la chita du Ramban qui dit que le Hallel BaMikdash, à Rosh Chodesh, le Hallel qu'on disait au Bet HaMikdash, Rosh Chodesh il est mis à Torah. Mais en dehors du Bet HaMikdash, le Hallel est seulement un minag. C'est pour ça que nous, à Rosh Chodesh, puisque c'est seulement un minag, on dit seulement la moitié du Hallel. On dit le Hallel court. Et alors, il dit le Hallel, ou bichlal asimcha chez Nitzavin Ubo. Le Rambam dit à ce sujet. Le Hallel, c'est inclus dans la Simcha que nous avons l'obligation de pratiquer. Comme chez Katou, quand c'est écrit dans le Pasuk. Ou veyom simchatchem ou moadechem ou beroshe chodchechem. Les jours de vos smachot et moadim, donc. Et à Rosh Chodesh. Ou tkatem bachatzotrot. Al olotechem val zifrishalmechem. Vous sonnerez des trompettes sur vos olot, sur vos holocaustes et sur les korbanot que vous allez amener. Qui ikar ashira bepe, ou clei le bisume kalaou, ou venitsavin ou besimchat ashir à la korban, le shelo beshata korban, bichla simcha, et là chez miyatu, Chodashim Begvulin, Mipne Sheino, Mekudash Lachag, Veno Taun Shira. C'est-à-dire qu'en fait, la Shira, essentiellement, c'est une Shira Bepé, c'est un Shira, le chant, et pas les sonneries. Et les trompettes, c'est pour embellir simplement, pour faire plus joli. Mais cette obligation de Shir, c'est sur le Korban, donc c'est au Beth Amikdash seulement. Et quand on chante Shelo Beshat HaKorban, alors c'est inclus dans la mitzvah générale de Simcha. Sauf que la Simcha, en dehors du Beth Amikdash, on a dit que, puisque ce n'est pas un vrai Yom Tov, la preuve c'est qu'on peut travailler, alors on n'a pas besoin, il n'y a pas de Shira non plus, il n'y a pas d'obligation de chanter, donc on ne dit pas un Hallel complet ou... Mashma Sheb Amikdash Yesh Bo Korbanot. Le Hallel, c'est Mina Torah. Et le Ramban, il a expliqué ça d'après Ramban. Le Ramban qui dit que Amechayev shel Hallel beYom Tov ou Simcha, que la raison pour laquelle Yom Tov, on est obligé de dire Hallel, c'est un din Simcha. Yom Tov, il y a une din de se réjouir, et donc il y a une mitzvah de chanter le Hallel. Même chose, Rosh Chodesh dans le Mikdash, il y a cette même mitzvah, mais de Bigvulin, c'est-à-dire en dehors du Mikdash, il n'y a pas cette mitzvah de Simcha. Et donc le Halel Bigvulin nous rend Minak de Rabbanan, seulement un Minak de Rabbanan. Quelle est la source? Pourquoi est-ce qu'effectivement on fait un tel Minak? Bon, qu'on fasse dans le Beth Amikdash, c'est écrit dans le Pasuk, Rosh Chodeshem. Mais pourquoi il y a un Minak de le faire Bigvulin? Alors pour ça, c'est marqué au Beyom Simchatchem, Uveroshe Chodeshem, Lifnei Elokechem. Im yesh Simcha, yesh Halel Shalem Midoraita. Donc, s'il y a un din de Simcha, alors il y a un din de faire le Halel. L'espèce, c'est fait pour s'attrister encore plus, en fait. L'espèce, c'est pour faire...
La simcha, elle est utile.
Bon, alors, c'est justement... Alors, il y a une simcha passive qui consiste à... La simcha, même à un moment pareil, on a quand même une obligation de simcha. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire qu'il n'est pas mort. Le mort, il est mort. Donc, je suis triste. Mais fais-en pas plus. Ne fais rien qui soit fait pour... augmenter le parce que dans le Hesped il y a un inyan de parler du mort, de faire mousser la chose un peu, parce que sinon on pourrait faire un enterrement, bon voilà, c'est voilà, on enterre, terminus, c'est vite fait, c'est bon, on ouvre la terre, on met le bonhomme dedans et on ferme, terminus, on fait un kaddish et on s'en va. Si on fait, on s'installe, on parle, ça fait mousser le deuil en fait. Et donc ne pas le faire, c'est une simcha passive. C'est une manif minimale, si vous voulez, de simcha.
Mais Shabbat, c'est encore plus fort, parce qu'on n'a même pas le droit d'enterrer.
Alors, Shabbat, on n'enterre pas du tout. Parce que Shabbat, c'est mouktsé, donc... Les halakhot ne permettent pas de le faire, quoi. Même enterrer. Mais c'est pas au titre de la simcha. Ah, parce qu'on n'enterre pas du tout.
Le fait de dire le halal, c'est une simcha active.
Oui.
C'est actif.
Hein. Oui, c'est actif.
Donc, à Hanukkah, il y a aussi le simcha...
Ah oui, bien sûr. Hein.
C'est pas possible.
Il doit être chanté obligatoirement, le Hallel.
Ah non?
Il doit être obligatoirement chanté.
Non, on considère que c'est des chants au sens où on dit qu'un poème, c'est des chants. Ouais. Premier chant, deuxième chant, etc. Alors que on ne chante pas obligatoirement. Au Beth Amikdash, il chantait. Et les Bissoumé Kola, c'est-à-dire la trompette ou le chauffard qu'on sonnait, c'est pour faire un peu plus musical, quoi. Si vous voulez, c'est...
Oui, la musique, ça vient de la joie, hein,
ça fait jamais tomber Shabbat, qui est pourri.
Non. Ah, ça fait tomber Shabbat. Mais ça peut tomber Shabbat à Yerushalayim, pas ici. À Yerushalayim, il peut avoir Shabbat pourri, Meshulash. Il y a un poème comme... Alors, Shabbat, ils ne peuvent pas lire la Megillah de peur qu'on la porte dans le Rechout. Alors, ils font toutes les choses
sur trois jours.
Sur vendredi, Shabbat, dimanche.
C'est marrant, cette histoire de... C'est comme l'histoire du chauffard, on n'a pas le droit de...
Un chauffard, l'oulav et Megillah. Ouais, c'est difficile à comprendre, oui.
C'est difficile à comprendre, je comprends pourquoi la Megillah, elle n'est pas directement dans le terminal d'un truc, là, le Héral. Pourquoi il n'y a pas tout le temps une Megillah?
Non, mais à part ça, les gens, ils ont une Megillah chez eux.
Ils allaient lire chez les malades, chez les voisins. Moi, je ne sais pas.
Mais ce n'est pas ça, la Gemara. La Gemara, elle dit, la crainte qu'on a, ce n'est pas qu'il va aller lire chez un voisin. La crainte, c'est qu'il ne sait pas lire et qu'il va aller apprendre à lire. Il ne sait pas faire le loulav, il va aller apprendre à faire le loulav. Il ne sait pas chanter du chauffard, il va aller apprendre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Parce que s'il va apprendre, ben, sur place, il aura sonné. Chez son maître, là, qui va lui apprendre, ben, voilà, tu as entendu le chauffard. Il va t'apprendre la Megillah, ben, lis la Megillah là-bas. Ah, tu dois rentrer chez toi pour l'enseigner à ta femme. Pour premièrement, les femmes, bon, la Megillah, hein, la femme, elle doit l'entendre. Ben, qu'elle aille aussi. Qu'elle a aussi écouté. Mais par exemple, le chauffard. Mais Icaradine, les femmes, elles ne sont pas tours de chauffard. C'est Chazman Grama. Donc, il n'a pas besoin de faire entendre à sa femme. Donc, il aura entendu le chauffard chez son maître. Le maître, il va lui apprendre à sonner, mais il ne sonnera pas. Pour le motzi, je ne sais pas. Et le loulav aussi, les femmes ne sont pas tours. Les Ashkenaziot, elles ont pris sur elles, mais le temps de la Gemara, ça n'était pas tours, les femmes. Alors, quand tu vas là-bas, le rébé, il te montre comment il faut se faire le loulav. Ben, tu l'as fait, ça y est, c'est terminé, tu peux le poser, ton loulav rentre chez toi. Qu'est-ce que tu as besoin de... Alors qu'est-ce qu'on craint que... Non, mais il va prendre son propre loulav pour... Alors ça, il va prendre son propre chauffard. Hein, pour son... Et donc il va le porter pour aller là-bas. C'est un peu lointain. Surtout qu'avec ce truc-là, on a fait tomber le chauffard et le loulav du premier jour, quand le premier jour tombe Shabbat. On va pas sonner, et donc on manque, d'une certaine manière, l'essentiel. Le premier, non, même un hérouve, on ne permet pas, on n'a pas fait de différence.
Bizarre.
Quand on fait ce genre de choses, on ne fait pas de différence.
Il y a beaucoup de choses qui sont faites par crainte d'eux.
Non, mais là, je comprends pas très bien quelle crainte il y a, mais. Bon.
En fait, lui, il fait pour l'instant une espèce de calcul des joies actives, des joies passives. Et on a vu que les joies passives, il y avait un champ de totation qui était plus large que la joie active, c'est ça, à gauche. Donc,
ici, on va voir. Alors, le Rambam, il dit que Tanit Arosh Chodesh, au Rambam, c'est un issur de Raita. Jeûner Arosh Chodesh, c'est un issur de Raita pour le Rambam. Parce que le Rambam, il dit dans Hilchot Nedarim, il dit, un oder, celui qui a fait un vœu, chez Yatsum be Shabbat ou be Yom Tov, Hayav Latsum. Celui qui a fait un vœu, qu'il allait jeûner Shabbat ou Yom Tov, il a l'obligation de jeûner. Shanedarim Khalim al divrei mitzvah, comme au Shebiyarnu, parce que le neder il est khal sur un devoir mitzvah. Le chen un oder, chez Yatsum Yom Rishon, ou Yom Shlishi, Kol Yamav, et celui qui a fait un vœu que. Par exemple, tous les premiers jours de la semaine ou le troisième jour de la semaine, il va jeûner toute sa vie. Ou pagabo yom ze vareu yom tov ou erev yom kippo. Et maintenant, voilà, il a fait un vœu que tous les lundis, il allait... Et maintenant, voilà que ce lundi, c'est erev yom kippo. Et ou c'est yom tov. Il est chayav latsum. Il doit jeûner. Et il va sans dire que Rosh Chodesh aussi. Pagabo, Chanukah ou Purim, Itre Nidro ou Mitner Yamim Haelu. Son éder est repoussé par ces jours-là. Oyum veisur atzum baem midivre sofrim areen tzrichim chizuk. Vitre Nidro ou Mitner Xerat Chachamim. Bien que ce soit Midera Banan, mais justement, les choses qui sont des Rabanan, il faut les fortifier. D'accord, il faut montrer que c'est plus fort même que le neder. C'est-à-dire ce neder, il repousse, il a fait un neder de jeûner, ça repousse Erev Yom Kippour, ça repousse Shabbat, ça repousse Yom Tov, mais pas, ça repousse Rosh Chodesh, c'est de Raita, mais pas Chanukah et Purim.
Bizarre.
Donc cette simcha passive.
Mais quel rapport avec Hanouka?
Hanouka aussi, c'est...
Hein? Pas de mishter, Hanouka, on peut jeûner avec les lumières.
Non, mais c'est mishter, on n'a pas le droit de jeûner, on avait sur le modèle de Pourim.
Hanouka, pas le droit de jeûner.
Ouais. Hanouka, on peut pas jeûner sur le modèle de Pourim, c'est avec ça qu'on a commencé.
En 8 jours, on a le droit de jeûner?
Pardon?
En 8 jours, on a pas le droit de déjeuner?
Non.
Ah ouais.
Et on ne fait pas d'espèce, si quelqu'un meurt et est enterré pendant Hanouka, on ne fait pas l'espèce. Comme on ne les fait pas, Erev Shabbat, etc.
En fait, souvent on les fait quand même.
Les gens disent qu'il ne faut pas faire de l'espèce, mais je voulais juste dire deux mots.
Oui, exactement ce qui se passe. Je me dis quand même, voilà, ils rappellent qu'il ne faut pas le dire, mais on ne peut pas ne pas.
Ceci n'est pas un espèce.
Oui.
Ils tournent quand même.
Mais c'est pas bien.
C'est pas bien.
Il ne faut pas faire ça.
Il ne faut pas dire deux mots du tout, quoi.
Non. On peut dire, pour que les gens comprennent pourquoi on ne fait pas l'espède, c'est pas parce que c'est un rachat auquel on ne fait pas l'espédime, c'est que, voilà, à sourd là, nous, c'est à sourd.
Le shabbat, on a le
droit de faire un espède?
Un espède, non.
D'accord.
Ah, par contre, il y a du bien d'un mort, qu'on
vient d'entrer la veille? Non. Pas faire de l'espède.
Le espède qui consisterait, parce que souvent les gens disent qu'ils ne connaissent même pas, donc ils viennent et disent le espède c'est un bar Torah, donc il n'y a rien à voir avec le.
Bon, alors si c'est un espède pour faire penser aux gens, ils veulent faire penser à la mort et des choses comme
un
ça.
Un bar Torah, mais qui n'a rien à voir avec finalement le mort qu'ils ne connaissent absolument pas.
C'est-à-dire, le espède c'est pour accentuer la tristesse, pas pour remonter le moral des gens.
Non, c'est pas pour remonter le moral des gens. Enfin, ça remonte le moral. On leur dit aussi que le mort, il est bien là où il est. Mais enfin, on va parler du mort. Donc, pour les gens qui sont affectés, même si on remonte, on peut pleurer. Ça fait pleurer. Quoi.
Les proches, ils arrivent à pleurer quand.
Ça console aussi un peu.
Alors, bon, on peut l'entendre sur le mode de la consolation aussi, parce que on va dire du bien du mort. Donc. Parce qu'en vérité, quand quelqu'un est mort pour le mort, c'est pas grave. C'est pour les restes, c'est pour ceux qui survivent que c'est embêtant. Le mort, il est très bien là où il est. Il est retourné chez Hachem, donc qu'est-ce qu'il peut faire de. Qu'est-ce qu'il peut vouloir de mieux?
Mais il n'y a pas si d'ignorance.
Ouais.
Si quelqu'un qui souffre depuis trop.
Donc, mitzvot de Rabbanan, le neder est repoussé. À cause de Divrei Sofrim, Tzrichim Chizuk. Donc on voit que le Issur Ta'anit de Rosh Chodesh, il est mis dans la Torah, puisque ça repousse, puisque le Neder se fait même Rosh Chodesh. Si Rosh Chodesh était des Rabbanan, alors on aurait dit c'est Tzrichim Chizuk, et donc on fait Rosh Chodesh, on jeûne pas. Et qu'est-ce qui peut bien interdire? C'est la mitzvah de Simcha. À quel titre ça peut être interdit? C'est la mitzvah de Simcha. Les familles mekaimim et mitzvah de Simcha, beaucoup massé. Alors certaines fois, la mitzvah de Simcha, elle se fait activement, en mangeant, en buvant, en chantant le Hallel, etc. Donc dans le Mikdash, la simcha, elle se fait kum assez, c'est-à-dire sous forme active. Et des fois, on accomplit la mitzvah sous la forme passive, c'est-à-dire on s'interdit de jeûner, par exemple. Et donc, dans les gvoulines, c'est-à-dire en dehors du mikdash, il y a un kium simcha midoraita sous la forme shevalta assez, c'est-à-dire ne fais pas ça ou ne fais pas ça. C'est l'expression de la simcha.
Le jeûne s'arrête après que Pourim soit rentré, l'Esther.
Le jeûne d'Esther, oui, il s'arrête au moment où Pourim. Enfin,
on lit la Megillah, ils en rentrent chez nous et puis
on mange. Oui.
On est dans Pourim, dans le jeûne d'Esther, on est dans Pourim.
Oui, mais vous pourriez manger avant la Megillah, sauf qu'il y a un din qu'on ne mange pas avant la Megillah pour ne pas être entraîné à manger et à oublier de lire la Megillah.
C'est contradictoire avec l'interdiction du jeûne dans le Pourim.
Alors c'est parce que je jeûne pas, je mange pas, mais je jeûne pas. Le jeûne s'arrête avant. Quand on entre dans Pourim, il s'arrête le jeûne.
D'accord.
Seulement, le fait que je ne mange pas, si quelqu'un ne se sent pas bien, il peut très bien manger avant la Megillah. Même s'il ne se sent pas bien à cause du jeûne. Il a besoin de casser le jeûne. Bon, casse le jeûne et tu écouteras la Megillah. A priori, un dîne de ne pas manger avant la Megillah, ce dîne-là, il est pas manger avant la Megillah, il est vrai aussi le lendemain matin. Les gens qui ne veulent pas manger, même des gens qui pourraient prendre le... Par exemple, toi, tu ne peux pas lire la Megillah. Quelqu'un va... Tu vas la lire plus tard, etc. Il y a un problème. Est-ce qu'on peut petit déjeuner? Ou bien est-ce qu'il faut... C'est pas en tant que jeûne, mais ne pas manger, parce qu'on craint que si je mange, ça va durer trop longtemps et je vais oublier de lire la Megillah. Il y a toujours ce problème que le repas peut durer et puis on peut être... C'est à ce titre-là qu'on ne peut pas parler. À cause de dîne de lecture de la Megillah, pas dîne de Pourim. Oui, c'est possible.
Tout
à fait, mais ça c'est comme la tefila du matin. Il y a des gens qui ont besoin de manger quelque chose. À la limite, si quelqu'un il a besoin de manger un vrai repas pour pouvoir prier, il a le droit. Sinon, tu n'as pas le droit de manger pour ton confort. Mais si vraiment tu en as besoin pour pouvoir te concentrer, ben, tu manges ce qu'il faut. Un diabétique qui doit manger, ben, il mange. Il mange à Yom Kippour aussi, tu me diras, mais bon. Pardon ?
Oui.
Un diabétique qui doit manger, il mange. Il ne va pas mourir, non?
Oui, il ne va pas non plus tomber en...
Non, moi je connais des gens qui ne jeûnent jamais un petit pour. Un diabétique, il ne peut pas jeûner, il n'a pas le droit.
Alors, injecter du sucre.
Quoi?
Injection de sucre après l'âge.
Alors bon, mais il faut savoir si on doit faire ça ou si on a le droit de manger. Est-ce que j'ai le droit de... Est-ce que je suis obligé de me faire une injection? Ou est-ce que j'ai le droit de manger? Mais a priori, c'est sûr qu'au temps où on ne savait pas faire les injections, oui, on mangeait. Donc c'est sûr qu'on a le droit de manger.
Sa maladie, c'est le jeûne qui n'a pas le droit.
Le Rav Sarah Meyer, celui qui a fait la yeshiva du Negev, la première yeshiva dans le Negev, il était un grand diabétique, et lui se piquait Yom Kippour. Il ne pouvait pas tenir le coup sans ça.
Ah ben, il est obligé, il n'a pas le choix.
Il n'avait pas le choix.
À l'arrêtement.
On n'a pas le droit. Il est obligé de manger. C'est pas que tu as le droit de manger.
Oui, ça n'aurait pas de sens autrement.
Non, mais il serait responsable des problèmes qu'il aurait. Il n'aurait pas compris ce qu'on demande.
Si quelqu'un qui a un super malaise hypoglycémique, on lui donne à manger, ah ouais, il y a des règles.
Bien sûr. Donc on voit que c'est Rosh Chodesh qui est le modèle de cette double simcha, puisque dans le Mikdash, il y a la simcha active, et hors du Mikdash, il y a la simcha passive. En fait, il y a deux points qui font une différence halakhiquement et même concrètement. D'après les Rishonim qui ne sont pas d'accord avec le Rambam, c'est-à-dire Rabbeinu, Peretz et d'autres, qui disent qu'il y a un riouf de Seouda, même Yom Kippour Katan, c'est-à-dire même Yom Kippour, pas Yom Kippour, Purim Katan, c'est-à-dire le Purim du Adar Rishon,
oui.
Le vrai Purim, c'est Adar Sheni, quand il y a deux Purim, il y a deux Adar, le 14 Adar, Rabbeinu Peretz y pense qu'il y a une obligation de Seouda ce jour-là aussi. Alors pour lui il n'est pas d'accord avec Rambam donc, et d'après cette Shita, c'est pas une simcha de Sheval Ta'aseh, du coup, puisqu'il faut manger.
Oui.
C'est une simcha de Koumaseh.
Oui.
Quelle est la source de cette opinion de Rabbeinu Peretz? Il y a une Mishnah dans Megillah qui dit Ein ben Adar Rishon, l'Adar Sheni. Il n'y a pas de différence entre Adar Rishon et Adar Sheni, ça veut dire entre le 14 du Adar Rishon et le 14 du Adar Sheni. La seule différence, c'est Ela Kriyatam Gila ou Matanot Levionim. La seule différence, c'est que le 14 du Adar Rishon, on ne lit pas la Megillah et on ne donne pas Matanot Levionim. D'après ça, D'après ça, oui. D'accord. Il y a donc, pour Shimon ben Gamliel, c'est marqué, il y a un espèce de vétanide, zéveze shavim. Il dit que en ce qui concerne donc la simcha passive, ils sont égaux. Mais quoi, ils sont espèce de vétanide ou mishteve simcha. Donc, espèce de vétanide, c'est mishteve simcha, c'est-à-dire chiyuv seuda, l'obligation de faire la seuda. Alors, madoua, eina mishnah ou agmara, maskira, mishloach manot. Pourquoi la mishnah, elle ne mentionne pas les mishloach manot comme différence? Alors, Absolovitchik répond que le mishloach manot, elle dépend de Purim. Puisque ça dépend de mishteve simcha. Puisque, comme je vous ai dit, mishloach manot, c'est envoyer à l'autre de quoi faire une seuda. Chez un simcha, il gamme les samer acherim. Ma joie de manger, c'est aussi de donner à manger à l'autre, de réjouir l'autre aussi par ein hi mitzvah bifnei atzma. Mais Shmuel Manot, c'est pas une mitzvah spécifique. C'est une des composantes de la mitzvah de la seuda, de ma simcha. Ma simcha, c'est aussi de me samer l'autre, de réjouir l'autre. Et là-dessus, il a ramené une preuve du Rambam. Dit que chez Isbach Adam, Shalmei Chagiga, Shalmei Simcha. Quand quelqu'un fait la shrita de ce qu'on appelle les korbanot de la Chagiga, les korbanot qu'on mange à la fête, dans la fête, et les korbanot qui sont là pour la Simcha. Parce que la Simcha, Yom Tov, elle s'exprime entre autres par manger de la viande. Et a priori, c'est un korban spécial que j'amenais, dont je mangeais l'essentiel de la viande. Lo yé ochel hu ou banav v'ishto bilvad, v'idme shiase mitzvah gmura. Alors le Rama m'y ramène, il ne faut pas que l'homme s'imagine que quand lui et ses enfants, et sa femme, lui, sa femme et ses enfants mangent, alors il a fait vraiment la mitzvah. Et la chayav de sa mère, ha'anim ha'umlalim, il est obligé de réjouir les pauvres, les déshérités, shenemar ve'alevi ve'ager ve'yatom ve'almana. C'est écrit. Tu dois réjouir le Lévi, qui n'a pas de champ, etc. Ve'ager, l'étranger, ayatom, l'orphelin et la veuve. Ma'achil akol ou mashkin kefi oshro. Donc il doit les nourrir et les donner à boire en fonction de ses moyens. Ou mishe achal zvachim velo simach elu imo. Et celui qui aura mangé des korbanot, de manger cette viande, et qui n'a pas réjoui les autres avec lui, alav ne'emar, à son sujet, il est dit zifrehem kelechem. Onim lahem shekol ochlim yitmeu ki lachmam lenafsham. Il dit que ceux qui mangent ça, c'est comme s'ils avaient mangé des choses impures. Si tu manges sans donner à l'autre. Mitzvah belevi yoter minakol. Il y a une mitzvah à l'égard du Lévi plus que les autres. Vishen lo, puisque lui il a l'ochelek velo nachala, il n'a pas de part en Israël, il n'a pas d'héritage. En lo matanot bebasar. Le Kohen, lui, on lui donne de la viande en matanot. Le Lévi, non. Le Fichar, Tzaych Lomar, Tzaych Lezamen, le Leviim al Shulchano, ou le Samcha, pour ça qu'on a l'obligation, en son temps, donc, d'inviter des Leviim à sa table et de les réjouir. O Sheiten, Lahem Matanot, Basar, Im Maaser Shelahem, Kedeh Sheim Tzoubot, Tzorchem. Ou bien alors, comment on doit leur donner le Maaser? Faut en donner en plus des matanot de viande. Parce que de la viande, ils n'ont pas accès à la viande. Le kol ha'ozev et ha'levi mil samcho v'shoe mimenu ma'asrotav baragalim. Et tout celui qui abandonne le Lévi et qui ne le réjouit pas, ou qui ne se dépêche pas de lui donner tout le maaser qu'il doit lui donner pour Yom Tov, pour qu'il ait de quoi se réjouir, au verbe l'otasi transgresse un interdit, comme c'est marqué, ishamer lecha penta azov et ha'levi. Fais attention de ne pas abandonner. Garde-toi de ne pas abandonner le Lévi. Donc on voit, d'après cette chita qui est ramenée, le remol ramène, qui dit, « Ala alacha, yesh omrim, shechayav l'arbot b'mishte v'simcha, b'yuddalet shebe'adar rishon. » Il le ramène. Il y a une mitzvah de se réjouir à Adar rishon, toujours au nom de ce Rabbeinu Peretz, donc. « Ve'en no'agim ken. » Et le remol, il dit, « Mais on n'a pas l'habitude de le faire. » Mikol makom yarbek tzad besouda kede lanset yede amachmirim. Le Rambam dit, malgré tout, ajoute, si tu ne fais pas une vraie seouda, ajoute un peu à ta simcha pour être yotze la chita des machmirim. Itztaref, af lishloach manot beadar rishon, vehu chidush gadol she mitzvazu chala pa'amayim bashana. Et donc, du coup, ça voudra dire que cette mitzvah-là, elle a lieu deux fois par an et pas une seule fois par an. Les années où il y a un deuxième mois d'Adar. D'un autre côté, le Rav a ajouté, chez les Bnei Kfarim, les villageois, qui eux lisent, comme on a dit, le jour du marché, c'est-à-dire le lundi ou le jeudi d'avant Pourim, Yotzim yede chovat matanot le'evyonim biyomze. Eux, ils peuvent donner matanot le'evyonim ce jour-là. S'ils donnent donc l'argent qu'on donne aux pauvres, ils peuvent le donner ce jour-là. Et le Rambam le dit effectivement, Bnei Kfarim shekadmu vekaru b'shenim chamishi, les villageois qui ont lu lundi ou jeudi, im chilku ma'ot le'evyonim biyom kriyatam yatsu. S'ils ont distribué de la tzedaka, les ma'ot de ce jour-là, Parce qu'effectivement, comme tout le monde est rassemblé, dans les pauvres sont là aussi, on peut leur donner. Les autres jours, c'est difficile, les pauvres, ils ne les ont pas sous la main éventuellement ce jour-là. À Pourim, ce sera difficile. Avala simcha vea mishte en osimota ela beyom arbaasa. La simcha et le mishte, ils sont obligés de le faire le 14. Vim igdimu lo yatsu. Et s'ils ont fait la simcha le lundi ou le jeudi avant, ils n'ont pas été yotse. Soudat Pourim shasa balayla lo yatsa et dechovato. Et il y a aussi un dîne que la souda de Pourim, si on la fait la nuit, c'est déjà Pourim, donc je préfère la souda, on n'est pas yotze, on est obligé de la faire deux jours. Yotze misé, il suit de là, donc. Shem Chayev, Shem Mishloach Manot, que ce qui m'oblige à faire la mitzvah de Mishloach Manot, c'est la mitzvah Shem Mishte Vesimcha. C'est la mitzvah de Mishte, la mitzvah. Mais la reine est le Noeg, Benel Pourim, pour cette raison. On ne peut pas envoyer les Mishloach Manot le soir. Il y a des gens qui veulent envoyer le soir. Déjà, moi, je fais plus vite. J'envoie déjà les Mishloach. C'est joli, c'est un cadeau très gentil, mais avec ça, tu n'es pas yotze la mitzvah. Aval matanot le'evyonim notnim beyom aknissa. Et puisque les matanot le'evyonim, on les donne le jour où on lit, alors on peut donner, même Belel Pourim, on peut donner les matanot le'evyonim. La tzedaka que tu veux donner à Pourim, tu peux déjà la donner, et d'après lui, on peut la donner déjà à l'El Pourim aussi. C'est comme ça que dans... Kivan shekohen tamigila gam balayla. Avec kriya tamigila, yamachayebet matanot le'evyonim.
C'est quoi la différence entre donner la tzedaka tous les jours et à Pourim?
Parce qu'à Pourim, il y a... Bon, alors, ici, ils disent qu'en vérité, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Parce qu'il dit que la lecture essentielle de la Megillah, c'est celle de jour, c'est pas celle de la nuit. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux donner les matanot le'evyonim le jour aussi. Mm-hmm. La différence entre la tzedaka, c'est. Dans le din de tzedaka, on regarde à qui on donne, a priori. À Pourim, on donne à tout celui qui tend la main.
C'est celui qui tend la main.
On lui donne, tu peux lui donner une petite chose, quoi. Si quelqu'un donne. On donne. Ah, le jour de Pourim, on donne.
On
ne contrôle pas.
Regarde à qui on donne. Ah bon ?
À Tzaka, tu dois regarder à qui tu donnes, parce que si tu ne sais pas à qui tu donnes, il faut donner en fonction de ce que tu as devant toi.
C'est-à-dire quoi ? Il faut faire une étude ?
Une estimation.
Non, ça veut dire que par exemple, tu as plus d'obligations à ton proche qu'à ton lointain.
D'accord. Ouais.
Mais maintenant, c'est venu, mais on donne à tout le monde.
Même si je sais que tu l'as.
Non,
mais il est riche.
Non, ça, si tu sais qu'il est riche, c'est un fou.
C'est pas
quoi.
Un Evion, alors.
Hein, c'est pas un Evion, il est pas. Evion, ça veut dire pauvre.
C'est plus la même. Il y a très bien envie.
Alors bon, ça dépend.
Je peux refuser de. Parce que je connais des synagogues, il y a des vendeurs professionnels.
Ouais, mais tu n'es pas obligé de donner. Tu n'es pas obligé de donner. Si tu les connais. Ah, pour Evion, donne-lui une pièce.
Ah, je suis obligé. D'accord. Ça, ça
en fait.
Surtout dans le 6e, il y a des.
Il arrive qu'il y ait une différence entre Evion et Ani.
Oui, Evion c'est plus pauvre.
En fait, je crois que le Ani c'est le vrai pauvre professionnel qui a plus honte de tendre la main,
tendre la main.
Qui est pauvre. Le Hélion, c'est celui qui est un peu...
Qui se gêne encore.
Qui est gêné, donc il a plus de priorité, on est plus pris, parce qu'on sait que si on a ordonné entre l'un et l'autre qu'on n'a pas, on sait que le pauvre, entre guillemets, ce qu'il appelle le pauvre, celui qui s'étend de la main, il se débrouille. Alors bon, alors, je ne sais pas si ces catégories existent aujourd'hui autant qu'avant, mais disons qu'avant, il y avait cette catégorie du pauvre.
Aujourd'hui, il y a les nouveaux pauvres qui n'osent pas aller à la soupe populaire, on voit très bien, ça existe encore, le type, il n'ose pas, il ne peut pas demander, etc.
Et ceux-là, on met l'attention.
Si tu vois que ceux-là, il faut leur donner.
Ouais. C'est ceux-là qui ont priorité par rapport à ceux qui savent demander. Mais le fait de donner...
Il faut lui faire tendre la main, quoi. Il faut lui dire...
Il faut l'inviter
si tu peux. Non.
Il faut trouver des moyens.
Trouver un moyen de. C'est difficile. C'est difficile.
Non, l'inviter au Michté.
Par exemple, au Michté, ou bien te débrouiller pour lui déposer de façon même anonyme un plateau devant la maison, quoi. Devant sa porte, si tu arrives.
Une enveloppe dans sa boîte aux lettres.
Oui, tu te débrouilles. Il y a des moyens en général.
Il y a une nuance entre les deux. Mais le fait de donner pour le soir. Ça aussi une utilité, parce que c'est le pauvre, il a jeûné toute la. Enfin, le pauvre de l'époque, hein, pour, je ne sais pas, ceux qui vivaient vraiment.
Celui-là, il faut lui donner à manger, tu ne veux pas lui donner de l'argent, si tout est fermé, il ne veut plus en acheter, que tu vois qu'il aille acheter.
Il faut lui donner à manger, mais je veux dire, déjà, le fait de lui donner de l'argent le plus tôt possible, alors qu'il vient de.
C'est la Dakar, mais c'est pas encore maintenant les Vionim, parce que ceux qui disent que ça. Le Mechayel, c'est la Megillah, et si les Ricard Megillah, c'est Veyom, alors tu n'es pas Khayab, c'est. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'obligation de Tzedaka le jour avant. Mais la mitzvah de matin, de l'Evionim, tu t'en acquittes seulement au moment de la lecture de la Megillah. Enfin, le jour, quoi. Moment, ça veut dire le jour.
Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait.
Aujourd'hui, les gens, ils donnent Marsita Shekel
le soir,
du Tanit.
Oui. Et le lendemain matin,
On donne. Il y en a qui donnent encore ou qui donnent effectivement aux pauvres.
Bon, non, mais en général, le problème c'est de pouvoir distribuer le jour même. Donc ils essaient de ramasser en disant vous prenez que.
Oui, il y a des gens qui font comme ça, qui se les font distribuer en Eretz par exemple le jour même.
Il y a toujours un ramassage en disant nous on se débrouillera. Il faut commencer à distribuer aujourd'hui. Oui. Parce que sinon, effectivement, même si tu envoies un chèque.
Mais le Kazip, il
les amène.
On peut leur dire.
Conditionne pour que ce soit donné.
Distribuer le jour même.
Le jour même. Donc c'est dans cette époque-là, il faut l'envoyer avant en conditionnant le.
En leur disant, tu veux que ce soit distribué le jour même.
Le jour même.
Enfin, il y a aussi des gens dans le 16e ou partout, dans la Boulogne. Je crois qu'il y a une liste de toutes sortes de gens qui ramassent à Paris et qui font distribuer le jour même en Israël, par exemple. Des vrais pauvres. C'est difficile de trouver des vrais pauvres.
Exactement,
il faut les connaître.
C'est ça que je dis aujourd'hui.
Mazon,
c'est
bien.
Mazon,
il fait ça bien.
Ou Mazon, je crois qu'eux aussi distribuent le jour même.
C'est ça, voilà.
Ça, c'est très bien si on trouve Mazon ou les.
C'est ça, aujourd'hui, malheureusement, on peut refaire les choses. Mais c'est vrai que c'est pas les pauvres qui en prennent. C'est pas le même genre de.
Oh, il y a des pauvres, hein. Même dans le 16e. Mazon, il y a toute la liste des gens qui ont pas de quoi manger.
Tout son raisonnement, c'était pour insister sur la joie active, la joie passive.
Si, c'est ça. Et de trouver une source. La source pour chaque chose, quoi. Ah. Où est-ce qu'on tire ce truc-là, c'est-à-dire. C'est essentiellement Rosh Chodesh, quoi. Rosh Chodesh, il y a les deux, entre Beit HaMikdash et Gvoulin. Donc ça sert de modèle, il y a donc de la joie active et la joie passive.
D'accord, la joie active et la joie passive. Le jeu passif, c'est limiter la
respect des tanites.
Limiter la tristesse, quoi, généralement.
Et ne pas jeûner, oui.
Ne pas jeûner. Oui, donc effectivement, la joie, c'est manger, et la tristesse, jeûne, c'est la tristesse, quoi. C'est vraiment très lié à la nourriture. La nourriture aussi.
Mais c'est souvent comme ça, un peu dans le judaïsme, quoi. Quand il y a une obligation de jeûner, le lendemain, il y a une interdiction de jeûner.
Il y avait toujours des alternances jeûne et repas, mais...
Enfin, Minatora, il n'y a qu'un seul jeûne, hein, dans l'année.
Oui,
il n'y a que Kippour dans la Torah.
Et ce n'est pas forcément un jeûne de tristesse.
Non, pas du tout, c'est un capara, c'est tout.
On est libéré, au contraire.
C'est une façon de se libérer.
Minatora, je ne sortirai jamais cette histoire. Ça ne veut pas, Minatora.
Et la Torah, c'est-à-dire que quand, si tu lis la Torah, il y a un seul jour qui est présenté comme un jour où il ne faut pas manger.
Et tous les autres, c'est facultatif.
Tous les jours, ça a été instauré par les Chachamim par la suite.
C'est aussi obligatoire, non?
Alors, c'est aussi obligatoire, mais certains sont plus obligatoires que d'autres. Et Minadin, en vérité, certains ont été instaurés et ils s'appliquent dans certaines circonstances. Nous, on est marmire de les appliquer tout le temps. Mais en fait, si on regarde de plus près, on pourrait... quelqu'un qui pourrait pas se permettre de jeûner comme ça à tort à travers, s'il regarde de plus près, il y a des jeûnes qu'on n'a pas besoin de faire. À part ça, il y avait des gens, il y avait beaucoup de... Chez nous, à la Yeshiva, le Rosh Yeshiva, il jeûnait quasiment jamais. Sauf à Kippour.
Le Rosh Yeshiva?
Il disait que... Ouais, les briskers, ils disent qu'on est faible aujourd'hui. Et donc, dès qu'il y a une raison de ne pas jeûner, ils ne jeûnent pas.
Oui,
et au contraire, les chassidim et les sfardim, ils jeûnent à tour de bras.
Oui, c'est ça,
et les yakès aussi, ils jeûnent très fort.
Ah bon, les yakès aussi. Et donc les lituaniens, c'est ceux qui jeûnent le moins.
Les litvakès des yeshivas, c'est ceux qui jeûnent le moins. Quoi.
Ça les empêche d'étudier, c'est ça?
Oui, c'est ça. L'Arizal qui dit, par exemple, tous les sigoufim de l'Arizal, c'est tout ça, c'est seulement à condition que ça ne te dérange pas dans ton limoud. Hein. Le Prime Kanievski, il a dit la semaine dernière de jeûner pour la refouache les mains de Rav Eliashiv, il a dit à condition que ça ne dérange pas dans le Limoud. Ceux que ça ne dérange pas, ils peuvent aussi bien étudier que ce qu'ils aient mangé ou pas, alors tu peux jeûner. Mais si ça te dérange dans ton Limoud, ça ne vaut pas la peine.
Moi, ça me dérange dans ma façon de travailler. Je ne travaille jamais le jour de jeûne. Ça veut dire quoi? Il faut que j'arrête le jeûne?
Non. On parle de Torah, on ne parle pas de...
Non, vous avez dit un jour que si on travaille à un bon niveau de sa profession... Oui. Si on faisait du
limoud. Bien sûr, ouais.
Non, limoud. Mais là, je chauffe, moi, les jours de jeûne.
L'ernen, il ne faut pas.
Je suis incapable de l'ernen non plus, c'est impossible.
À ce point-là?
Ah ouais. Après, j'arrive pas à réfléchir.
C'est ce que disait Brisker, on est plus faible que les.
Quand ils disent, ça ne vaut peut-être pas la peine. Je veux dire.
Le Rafet Saïd, bon, il ne parle pas des jeunes institués. Il dit, quand on en refait à nouveau comme ça, il dit, il préfère que ce soit un tanit d'Ibou.
Oui.
Qui n'empêche pas d'étudier.
Un Tanit Dibourg à la place.
Voilà, plutôt que de l'instituer un nouveau jeune pour.
Tanit Dibourg, c'est trop.
Mais trop, ça, c'est quand même pas exagéré. Hein. Pas manger, d'accord, mais pas parler.
Non, mais disons, plutôt que de dire pour la refouette, machin, tout ça. Parce que vraiment, les gens, enfin, il y a peut-être quelques autres, ça ne gêne pas pour étudier. Mais... Lui, il trouve que le Tanit Dibourg à la place du Tanit comme ça. Déjà à son époque.
Donc ça veut dire que ça. C'est-à-dire que, parce que moi, financièrement, ça ne me dérange pas. Je l'ai d'arrêter de travailler un jour, je fais ce que je veux. Il n'y avait pas d'impact financier. Mais il peut y avoir un impact financier sur des gens qui sont.
Ah oui, mais si quelqu'un avait un impact financier, ça, il faudrait prendre ça en compte, effectivement.
Mais sur quel jeune tous, même si rien. Là, c'est quand même compliqué ça.
Tchabéav, c'est pas non plus Minatora. Hein.
Oui, c'est bien, mais.
Bon, alors disons Tchabéav, mais les autres, sans doute les autres.
C'est incroyable, c'est un crédou, je pense. Bah, c'est ça, voilà. Le rabbin, le rabbin, c'est le jeune, Tchabéav, bon. C'est un salarié, ça embête vraiment, il est en négociation, dans un gros contrat, etc. Il n'arrive pas du tout à se concentrer, il risque de faire capoter l'affaire, bah, il ne gêne pas. C'est ce que vous dites, non?
Oui, oui.
Ça va être un double problème, parce qu'il faut aussi que, bon, il faut qu'il ait comme ça quelqu'un qui dise, parce que s'il le fait tout seul, ça va travailler aussi. Le fait de dire, je ne gêne pas, alors je ne vais pas gêner, ça peut aussi le mettre dans un état où il ne va pas bien réussir ce qu'il doit faire. Hein, s'il est pas...
Et si on se sert du jeûne pour une mauvaise intention? Par exemple, il dit, ah, ça me fait du bien, tiens, un petit régime.
C'est pas une mauvaise intention, c'est les effets secondaires positifs.
C'est ça, c'est pas très grave. Non, parce qu'un jour, je me rappelle, vous avez dit, de toute façon, si c'est pour rester dans la télé, c'est pas peine de jeûner.
Ouais, j'ai dit que c'est pas fait pour ça. C'est si tout ce que tu vas faire.
C'est fait pour réveiller la personne.
C'est fait pour jeûner, c'est pas.
Bon,
c'est payer de sa personne en vérité, n'est-ce
voilà,
pas je paye de ma personne quelque chose. C'est un peu de graisse, hein, comme si je mettais un peu de graisse sur le misbère, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, mais si par ailleurs tu mets de la graisse sur le misbère, mais que tu continues de faire des bêtises, je veux dire, tu crois que c'est un intérêt, ça n'a pas d'intérêt, je veux dire.
Je ne suis pas resté non plus prostré toute la journée dans mon fauteuil, en train de penser, je ne sais pas moi, des choses tristes, quoi. C'est...
Non, mais il ne faut pas, d'abord, ils ne sont pas tous tristes, les jeunes, je veux dire, jeune d'Esther, ce n'est pas un jeune triste.
C'est pas un jeune triste.
Non, ils ont jeûné parce que on était très en danger. C'est une espèce de jeûne où on se remet dans la situation où on a jeûné pour payer de notre personne pour qu'Hachem nous sauve, quoi. C'était pas triste.
Ils ont jeûné 3 jours,
eux. Bon, ils ont jeûné 3 jours parce qu'ils étaient... Nous, on fait sur le modèle de... On n'a pas instauré de jeûner 3 jours.
Pourquoi jeûne triste? Il y a Tchabéav après.
Tchabéav est peut-être le... Alors, il y a une certaine tristesse, hein, par exemple, Sam Gedalia, celui qui a pris Rosh Hashanah. C'est quoi? C'est un jeûne qu'on a fait parce qu'on a tué le dernier gouverneur. C'est-à-dire, c'est les restes, la dernière trace de l'autonomie juridique juive sur la terre d'Israël. Bon, alors, évidemment, c'est triste, mais en fait, ce qui est, ici, on jeûne parce que, on a décidé que, c'était une erreur. Il n'aurait pas dû. Gedalia, il s'est trompé. Il a écouté. C'était un pieu. Alors, on lui a dit, il y a quelqu'un qui veut t'assassiner. Et on lui a dit qui c'était. Il a dit, dans son orage, je n'écoute pas. Il l'a assassiné. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dire, j'écoute pas que c'est lui, mais je prends des mesures pour me protéger.
Mais on ne peut pas ne pas.
Mais protège-toi.
C'est pourquoi je ne veux pas que c'est lui.
Non, il n'a pas besoin de se protéger. Il n'a pas le droit de ne se protéger que de lui. Et il faut mettre un gilet pare-balles, disons. D'accord. Et pas seulement te dire, ben, si vous le voyez arriver lui, arrêtez-le, quoi. Non. C'est... On veut me.
À cette journée.
Pas l'arrêter préventivement, mais je peux me méfier, je veux dire, doubler la garde et voir s'il se pointe, que quelqu'un le suive, quoi.
Le dernier, c'était...
Le gouverneur.
Le premier temps, non,
du deuxième.
Du deuxième. C'est la fin de...
La fin de l'autonomie, quoi.
Ouais, donc on a cette affaire donc, qui s'est trompée, on a le temple là, comme ça, le fait qui faisait des sacrifices, il ne voulait pas non plus qu'on pense que si, que ça, que le problème de l'époque aussi, il a eu des pensées qui font que le truc a... Des fois, en appliquant les choses un tout petit peu comme il ne faut pas, il y a des périodes historiques, là,
voilà. Alors, attendez. Semaine prochaine. Mardi, c'est normal.
Non, c'est normal. Le jeûne d'Esther le lendemain.
Ce sera le lendemain, le jeûne d'Esther.
Et après, Pourim.
C'est aussi normal.
Jeudi, la joie. La grande joie de.
Pardon, vous avez ?
Il manquerait plus qu'ils attendent ce jour-là pour attaquer l'Iran. En disant pour une, c'est un bon jour.